Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième vendredi du mois, c'est donc la Fondation Copernic qui a investi l'émission Mode d'emploi. Au micro, on retrouve Didier et Damien, Claude aux manettes. L'émission de ce soir est consacrée aux modèles et salariés low cost, avec une question, quelles conséquences du consommer moins cher ? Nous parlerons du modèle aérien. Depuis une vingtaine d'années se développe dans différents secteurs de l'économie nationale et internationale un modèle d'offres et de biens et de services à coût réduit. C'est particulièrement vrai dans les transports aériens où le low cost cherche à prendre des parts de marché sur les compagnies de transport traditionnelles. Mais comment fonctionne ce modèle économique et quelles sont les conséquences pour les salariés et les consommateurs, que ce soit dans l'aéronautique, secteur emblématique, mais plus largement dans tous les secteurs touchés par ce type d'économie. On pense notamment à la téléphonie ou à l'agroalimentaire. Pour discuter de ce sujet ce soir, trois invités, dont deux sont en studio avec nous, José Rocamora, syndicaliste à CGT Transport Aérien, Mathieu Santel, syndicaliste Sud Aérien, et par téléphone, Jean Vandevatine, chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles, membre du GRACOS, groupe d'analyse des conflits sociaux, et auteur de différents travaux sur cette question. Vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10 et intervenir à tout moment de l'émission. Comme toutes les précédentes émissions, vous pourrez télécharger à la fin de cette émission, celle de ce soir, sur le site internet de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org, ou la réécouter mercredi prochain en réveil, dès 7h30.
Eh bien, bonjour à tous donc. Bonjour Jean Vandevatine.
Bonjour.
Merci de nous appeler, puisque tu nous appelles de Belgique. Donc, merci beaucoup de consacrer un petit peu de temps sur ce sujet qui, je crois, va tous nous intéresser. Bonjour José.
Bonjour.
Et bonjour Mathieu.
Bonjour.
Voilà, donc aujourd'hui, comme on vous l'a indiqué, on va essayer de s'interroger sur la question du low cost. Alors, pour cela, donc, on a à la fois réuni un chercheur qui a travaillé sur ces questions, et plus particulièrement sur Ryanair. Jean, tu as produit plusieurs articles qui essayent un petit peu d'analyser la situation de Ryanair et le modèle, le modèle économique et les conséquences que ce modèle a sur les salariés. On te donnera la parole, bien évidemment, pour en parler. Et puis donc deux syndicalistes qui là vivent en direct ces questions. José est responsable au sein de la Confédération syndicale de ces questions de low cost depuis quelques années maintenant, et je crois qu'on aura l'occasion en particulier d'échanger sur les éléments nationaux, mais aussi sur le contexte européen qui, on le sait, favorise très largement la déréglementation en matière de services et en particulier en matière de services aériens. Et puis Mathieu connaît là aussi largement bien ces questions, ayant lui-même travaillant donc à Sud, dans une entreprise de transport aérien, disons-le comme ça. Voilà. Alors peut-être comme première question, peut-être est-ce nécessaire déjà de définir le low cost, parce que bon, on voit bien que quelque part, en tant que consommateur, chacun d'entre nous utilisons parfois les services du low cost. Certains s'y refusent d'ailleurs pour des raisons qu'on verra tout à l'heure. Mais en tous les cas, bon, nombreux en tous les cas sont ceux qui utilisent ces services. Comment est-ce qu'on peut définir le low cost d'abord avant même d'en voir les conséquences. Peut-être José déjà pour démarrer. Alors sachant que je coupe tout de suite, mais sachant que évidemment là on va traiter de l'aérien, mais peut-être que le low cost on le retrouve pas uniquement dans l'aérien.
Bien sûr, on va en parler. Pour l'aérien, la compagnie qu'on considère comme étant la celle qui a donné l'exemple, c'est Southwest aux États-Unis. Au milieu des années 70, lorsque sous l'ère de Jimmy Carter, il y a la déréglementation du transport aérien, que des compagnies aussi connues que Pan Am, TWA, Braniff font faillite, qu'il y a des fusions, des dizaines de milliers d'emplois perdus, eh bien, il y a Southwest qui innove avec ce qu'on appelle maintenant le low cost. Dans un film infrarouge diffusé sur Antenne 2 l'année dernière, on parlait de hard discount et ont donné la naissance de l'art discount en Allemagne après la guerre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ces low-cost discount sont nés aux États-Unis après une réglementation et un secteur qui se sinistrait, en Allemagne après la guerre, après une destruction. Et en Allemagne, c'était surtout pour l'agroalimentaire. Et actuellement, en Europe, nous voyons, bien entendu, ce qui est très visible, le low-cost dans l'aérien, mais dans d'autres domaines. Et le low-cost dans l'aérien, comme dans notre domaine, est la réponse à la crise que nous avons. Je vais employer les termes de Jacques Attali, qu'on ne peut pas considérer comme un dangereux collectiviste, mais qui a dit que la crise que nous vivons est le résultat du déséquilibre entre les revenus du capital et les revenus du travail. Autrement dit, moins de pouvoir d'achat, la demande qui se contracte et donc l'appareil productif qui commence à mettre des produits low cost. Cette semaine, il y a Ariel qui a lancé sa lessive low cost, Brico avec sa filiale low cost. On est envahi et donc il y a une paupérisation des populations en Europe, parce que c'est la réponse qu'a trouvé le capital à la crise qu'il a lui-même engendrée.
Jean, quelques mots pour compléter ces premiers propos.
Oui, donc je pense que ce qui a été dit et ce qui doit être souligné, c'est le fait que le low cost revient à mettre des produits et des services sur le marché, mais à très bas coût. Et donc c'est vrai que pour une part, ça répond à un contexte de crise, de manque de pouvoir d'achat d'une partie de la population. Je pense aussi que par rapport au secteur aérien, ça a permis malgré tout un accès à des biens qui auparavant n'étaient pas accessibles. Donc ce qu'on observe dans le secteur aérien, c'est qu'une compagnie comme Ryanair a participé à la démocratisation du ciel, en quelque sorte.
Mais est-ce que ça veut dire... Alors ça, je pense effectivement... Enfin, bon, on peut tout à fait... D'ailleurs, ça serait intéressant. Enfin, est-ce qu'on a des chiffres qui montrent qu'effectivement, le transport aérien s'est développé, qui s'est développé sur d'autres types de populations qui ne voyageaient pas auparavant? Moi, en tant qu'utilisateur, si j'ose dire, des transports aériens, on serait tenté de répondre positivement. Mais est-ce qu'on a quelques chiffres là-dessus, Mathieu?
Bah, des chiffres, j'en ai pas trop. Effectivement, il y a eu quand même une baisse des coûts qui a été mise en place et qui s'est aussi traduite par une baisse des tarifs. Donc, bon, il y a eu certainement une forme d'accès différente au transport aérien. Après, dans des conditions quand même qui, pour les passagers, s'est fait, en gros, voyager sur du low cost, c'est s'adapter au low cost et accepter tout un certain nombre de modes de trajet qui sont quand même très loin du service qu'on pouvait attendre avant l'aérien. Bon, après, le modèle low cost, je pense quand même qu'il s'est développé dans un cadre de libéralisme acharné avec la dérégularisation, et c'est quand même ça qu'il faut mettre en compte, dans un modèle de concurrence qui s'est pas fait que avec les low cost, mais qui s'est fait aussi avec les compagnies majors et qui elles-mêmes sont entrées dans un système de concurrence très fort. Et ce modèle surtout, il s'est dilué, ce qui fait qu'on a aujourd'hui quand même des compagnies dites majeures qui ont baissé leurs coûts et ont tout adapté, tout un certain nombre quand même des attitudes et des techniques qu'ont mis en place le low cost, bon, et qui chacune développe leur propre compagnie low cost. Donc il y a eu quand même un truc de la dérégularisation et de la concurrence qui a amené à un libéralisme qui s'est très fortement développé dans le transport aérien.
Mais oui, non, José voulait intervenir.
Oui, par rapport à la démocratisation du transport aérien, moi je la situerais beaucoup plus loin. C'est en fait des éléments technique. C'est l'apparition des gros porteurs, 747, Lockheed, qui construit le Tristar, le DC-10. Jusqu'à la fin des années 60, les plus gros appareils, c'était le 707 et le DC-8, c'était moins de 200 passagers. D'un coup, arrivent sur le marché des avions gros porteurs où on multiplie par 3 les capacités. Airbus met en place son B2, qui est le 300 B2, qui est un moyen courrier, 300 places. Donc là, il y a déjà des éléments techniques ou l'offre qui permettent que l'offre soit multipliée, et en densifiant, on baisse les prix. Par exemple, si on prend ici en France, c'est Air Inter qui a fait un formidable effort et qui a vraiment démocratisé le transport aérien parce qu'elle a pu mettre avec ses gros porteurs, c'est de là que ça part, une offre adaptée. Et en plus, avec ses tarifs bleu, blanc, rouge, ça avait permis vraiment de baisser les prix. Sur le problème de ce qu'apporte les low cost, et on va dire de Ryanair, parce que Ryanair va arriver à 80 millions de passagers. Moi, j'ai du mal à croire qu'il y ait 80 millions de passagers qui aient découvert l'avion avec Ryanair. L'étude de l'Espagne est révélatrice de ce qu'on peut considérer de voir les impacts lorsqu'il y a low cost qui arrive. L'Espagne est le premier marché de Ryanair avec 32 millions de passagers. Dans le même temps, Iberia a baissé de près de 20% ses passagers. Donc, les low cost sur le marché européen ont certes amené de nouveaux passagers, mais dans beaucoup de cas, c'est un transfert des autres compagnies. Et ça, c'est valable là où il y a une présence très forte des low cost.
Jean, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un modèle low cost alors? Dans le sens où on aurait des segments finalement du transport aérien qui seraient réservés à telle ou telle compagnie low cost ou compagnie traditionnelle. On voit bien, le sentiment qu'on peut avoir quand on ne connaît pas bien la question, c'est plutôt l'idée que le low cost se réserve certaines tranches, si j'ose dire, du marché les plus rentables. Alors que, bon, pour parler un peu simplement, les transports traditionnels seraient plutôt sur une logique large avec l'ensemble des destinations qui sont fournies. Est-ce que c'est un petit peu ça qu'on peut dire?
Mais je pense que quand on parle de low cost, ça renvoie à un certain nombre de compagnies aériennes qui n'ont pas toujours toutes les mêmes caractéristiques. Donc, en gros, elles se rejoignent. Mais si je prends Ryanair, on peut dire que Ryanair est vraiment le cas le plus poussé.
C'est le cas emblématique.
Le cas le plus emblématique de cette logique low cost. Alors, si on regarde Ryanair, donc moi, je vois la situation à partir de la Belgique. Je veux dire, c'est le terrain que j'ai analysé, où Ryanair est arrivé en Belgique en 1997. Parti de rien, Ryanair aujourd'hui est une des principales compagnies actives en Belgique. Alors, je pense que ce qui est important dans le modèle économique de Ryanair, c'est que en termes de destination, les possibilités sont concentrées. Je veux dire, ce que fait Ryanair, c'est des moyens courriers. Ryanair couvre relativement bien l'Europe et puis pour l'instant ne va pas plus loin. Alors dans le modèle Ryanair, ce qui est important, je pense, à souligner, comme José l'a dit, c'est l'appareil. Donc Ryanair a investi dans des appareils, dans des Boeing neufs, donc elle a des avions qui sont neufs. Donc ça implique aussi toute une série de coûts moins élevés que par rapport à d'autres compagnies. Et je pense que ce qui est important à souligner, c'est que dans le modèle low cost de Ryanair, le prix, certes, le prix d'achat d'un ticket est peu élevé, mais ce prix est compensé par d'autres choses. Donc Ryanair, souvent, a bénéficié de subventions, de subsides publics pour s'installer dans certains aéroports. Oui. Donc, il y a un financement en partie public qui s'est fait pour attirer cette compagnie. Si vous prenez Ryanair, si vous voyagez avec Ryanair, si vous voulez manger, si vous voulez boire, vous devez payer. Si votre valise fait plus de 10 kilos, vous devez payer. Si vous avez oublié d'imprimer votre ticket d'embarquement, vous devez payer. Donc, c'est aussi, je veux dire, l'accroche de Ryanair, c'est un prix du ticket qui est très bas, Mais quand on écoute les consommateurs, les associations de consommation, bien souvent, ce qui est relevé, c'est que il y a toute une série de coûts qui viennent s'ajouter. Et Ryanair a un peu changé son site internet, mais il y a quelques mois, l'ancien site internet était le parcours du combattant et à chaque étape, quelque part, la compagnie...
Je crois d'ailleurs que ça avait été attaqué, ça, plus ou moins, non ? Cette affaire d'un site internet qui, finalement, vous obligeait, par une erreur, à payer 10 euros de plus le billet, non ?
Tout à fait, il y avait une volonté d'avoir une information peu transparente et peu lisible pour le commun des mortels.
Je voulais juste en profiter peut-être avant de rentrer dans le plus dans le détail du modèle économique. On parlait de contexte et définition, vous parliez de subvention. Existe-t-il une régulation ? Quel est le rôle des politiques, des États, voire de la Commission européenne sur ce modèle ? Un peu l'historique de la réglementation sur le modèle low cost, notamment dans le transport aérien.
Donc on part quand même d'un modèle historique, donc qui sont des compagnies porte-drapeaux, les compagnies nationales, Air France, etc., et avec appuyées sur les États et avec des accords inter-États sur l'échange entre les différents de flux entre les États. Et on passe en gros donc pour l'Europe à partir de la fin des années 90 autour de 97 à un truc qui s'est très largement libéralisé et où en gros chaque compagnie européenne peut voyager d'un bout à un autre sur les tarifs qu'elle veut, du départ à l'arrivée qu'elle veut. Donc ça a été ça, en fait, la grosse ouverture de la fin des années 90 qui a complètement modifié le transport aérien, qui a ouvert une très large concurrence. Et c'est là qu'on voit arriver en Europe réellement les modèles low cost qui s'appuient là-dessus. Bon. Donc aujourd'hui, il y a quand même... encore des évolutions en cours sur effectivement le droit et les évolutions réglementaires européennes qui vont plutôt pas dans le bon sens de ce point de vue-là parce qu'on est quand même on reste sur quelque chose de plus en plus ouvert, de plus en plus libéralisé. Et aujourd'hui, l'objectif de l'UE, c'est l'Open Sky, donc c'est effectivement toujours un ciel européen très ouvert, et que ce soit l'UE qui maintenant négocie avec les partenaires internationaux sur justement cette ouverture, et cet échange entre avec les différents États.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il existe encore des compagnies nationales ? Est-ce que ce terme de compagnie nationale a un sens aujourd'hui ?
Si vous permettez, j'oserais revenir sur ce qu'a dit notre ami belge. Sur Ryanair, le chiffre d'affaires, il y a une étude qui a été faite par Air Scoop, qui est une entreprise anglaise, sur le chiffre d'affaires de Ryanair, le prix du billet payé par les clients ne représente que 20% du chiffre d'affaires. Ce qu'ils appellent des revenus auxiliaires, c'est-à-dire et on paye avec la carte bleue, on se prend un euro, les boissons, les locations, plus de 20%. Les subventions versées par les chambres de commerce, les associations, etc., plus de 20%. Et ensuite, il y a une optimisation fiscale des ventes, des locations d'avions. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de Ryanair qui s'élève à un peu plus de 3 milliards, il n'y a que 20% le prix du billet. Autrement dit, s'il n'y avait pas les subventions qui s'élèvent à 800 millions d'euros par an, alors que Ryanair fait entre 400 et 500 millions d'euros de résultats nets, eh bien Ryanair mettrait la clé sous la porte.
Mais pour répondre à la question, on peut penser que les autres compagnies sont elles-mêmes aidées d'une manière ou d'une autre.
Pas de la même façon. Le pays qui est dans une complète déliquescence, c'est l'Espagne. Énormément de compagnies low cost ont touché des subventions. Nordstrom, etc., Ryanair et les autres, mais jamais dans ces proportions. Par exemple, en France, la cour régionale des comptes en 2008, lorsque les faits sont à port, elle ne relève en 2008, les magistrats de la cour régionale des comptes ne relèvent que des subventions qui sont versées à Ryanair.
Je crois que Jean veut prendre la parole, non ?
Ce que je voulais dire, c'est que dans le modèle Ryanair, à l'origine en tout cas, le choix des aéroports est aussi quelque chose de très important à analyser. Donc Ryanair a toujours choisi, à ma connaissance, des aéroports secondaires. Donc Ryanair ne s'installe pas dans les aéroports nationaux principaux, mais va dans des aéroports secondaires. Si je prends le cas de la Belgique, l'aéroport qui a été choisi, c'est l'aéroport de Charleroi, qui est à 40 km de Bruxelles. Et donc c'est devenu...
France, c'est Beauvais.
Voilà. Mais ce qui est important à souligner, c'est que quand Ryanair s'est installé à Charleroi, l'aéroport de Charleroi n'avait quasiment aucune activité. Donc Ryanair est venu et il a développé une activité. Et aujourd'hui, Ryanair est l'opérateur principal de l'aéroport de Charleroi. Et il faut savoir que Charleroi, c'est une zone qui a été excessivement touchée par la crise. Donc c'était une région de sidérurgie, une région de métallurgie, et toutes ces entreprises ont progressivement disparu, ont progressivement été restructurées, rationalisées, et donc on a une région avec un taux de chômage qui est excessivement important. Et Ryanair joue là-dessus aussi, et c'est comme ça qu'il parvient à décrocher des conditions très intéressantes dans des aéroports secondaires qui ne peuvent se développer que parce qu'il y a Ryanair qui s'installe en quelque sorte.
Alors, je vous propose de poursuivre les débats, peut-être avec après une première pause musicale. Donc, nous allons écouter l'employé de Gary Griou.
Bien, bah écoutez, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel et aujourd'hui nous recevons trois invités, hein, Jean Vandevatine, excuse-moi pour la difficulté à prononcer ton nom, tout le monde aura compris, tu es belge, tu nous appelles de Belgique une fois de plus, merci. Et puis en studio, José Rocamora, qui est syndicaliste à la CGT, et Mathieu Santel, syndicaliste à Sud-Aérien, sachant que Jean, tu as fait des travaux de recherche sur, en particulier sur Ryanair et plus largement sur le modèle low cost, qui est aujourd'hui le sujet qui nous rassemble. Alors dans cette première partie de l'émission, on a un petit peu essayé de décortiquer le modèle lui-même. Je vous propose que maintenant, on vienne plutôt sur la question des conséquences, hein, finalement, de ce modèle. Conséquences sur les salariés eux-mêmes. On sait qu'elles sont importantes, ces conséquences. Conséquences pour les consommateurs eux-mêmes. Peut-être José. Mais avant tout, je crois que tu voulais revenir un petit peu sur les débats antérieurs.
Oui. Hein. Très rapidement, Jean a raison lorsqu'il disait que Ryanair choisissait des aéroports secondaires, mais pour croître encore, Ryanair, depuis quelques années, va aussi sur des aéroports principaux. En France, Marseille, qui était un des plus grands aéroports de province, ils vont à Barcelone El Prat, qui est l'aéroport historique de Barcelone. Ils vont à Madrid Barajas. C'est vraiment dans des aéroports importants.
Oui, et puis, si tu peux me permettre, en Belgique, fin de l'année passée, Ryanair a décidé de s'installer, de développer une activité à l'aéroport de Bruxelles, donc la Zaventem, voilà, qui est vraiment l'aéroport belge.
Donc on est bien dans une logique, effectivement, de l'accroissement à la fois du transport et des lieux de...
Voilà. Pour croître. Le second aspect, c'est effectivement Charleroi. Ça génère de l'emploi à Charleroi, mais pour que l'aéroport soit aux normes, il me semble, vous me direz si c'est juste, que la région a dû s'endetter énormément et qu'elle a des dettes et des remboursements pendant encore je ne sais pas combien de dizaines d'années. Alors, c'est justement pour dire que beaucoup d'aéroports, pour accueillir Ryanair, ont dû s'endetter, ce qui les met en position de faiblesse parce que Ryanair, ne signant pas des contrats avec eux, peut partir. Alors, pour répondre à votre question sur
Avant, je crois que Mathieu aussi voudrait intervenir sur ce sujet.
Oui, quand même, effectivement, on parle beaucoup de Ryanair parce que je pense qu'aujourd'hui, par rapport au modèle traditionnel low cost, c'est effectivement ce qui s'en rapproche le plus sur le modèle industriel, sur le modèle commercial, sur le modèle social. Il faut quand même voir que, Ryanair a commencé un peu à mettre... plus ou moins de l'eau dans son ventre, on va dire, par rapport effectivement à ce modèle-là, et notamment à commencer à un peu moins traiter ses passagers, enfin avec un peu plus de respect, on va dire, pour ses passagers. Mais il y a quand même toute une partie des compagnies low cost aujourd'hui qui font évoluer leur modèle commercial, notamment en essayant de s'adresser à une classe affaires, et c'est effectivement en étant sur les aéroports principaux, en commençant à se mettre dans les systèmes de réservation, dans les agences de voyage, en commençant à avoir des systèmes de fidélisation, etc. Donc on a quand même une évolution du modèle low cost, parce qu'on appelle, ce qui est appelé parfois un modèle hybride, et dans le même temps on voit les compagnies traditionnelles et les majors qui, elles, ont au contraire une politique qui de plus en plus se rapproche du modèle low cost, et avec le développement de leur propre low cost.
En France, c'est Transavia, c'est ça?
Oui.
En France, c'est Transavia. Et on retrouve effectivement un peu est-ce qu'on peut dire qu'on a quelque part après avoir une diversification des modèles, on a une convergence des modèles maintenant qui sont dans le transport aérien?
Sur le court et moyen courrier, parce que quand même sur le modèle low cost, par son modèle industriel de rotation très courte, aujourd'hui ne s'applique que sur le court et moyen courrier. Effectivement, on peut s'interroger sur le fait de savoir à quel point on va y avoir un rapprochement entre ce que faisaient les compagnies traditionnelles à l'origine et qui alimentent leur hub pour avoir après du long courrier qui, lui, pour le moment, n'est pas touché par les modèles low cost, et puis les modèles low cost, et puis les compagnies low cost plus traditionnelles.
Ah, je vous propose peut-être, hein, parce que le temps passe et le sujet est très intéressant, de passer aux conséquences de ce modèle économique. Alors, José, vous vouliez introduire, alors peut-être oui, sur les salariés.
Sur les conséquences, d'abord, ces compagnies, leur modèle est basé sur du dumping social. Par exemple, si on prend Ryanair, c'est du dumping social. Sur des subventions. Et l'ensemble des compagnies low cost ont entraîné le secteur dans difficulté. Actuellement, si on compare les emplois des compagnies, disons, traditionnelles et des compagnies low cost, on s'aperçoit que les pertes des compagnies traditionnelles ne sont pas compensées et de loin par les emplois dans des compagnies low cost. British Airways a perdu près de 15 000 emplois, Air France, là, c'est 10 000 emplois, Iberia va perdre 20%, et Italia, ainsi de suite. Face à ça, Ryanair, c'est 7500 emplois, EasyJet, c'est 8000 et quelques emplois, et quand on fait le compte entre les deux, on voit qu'il y a une destruction d'emplois dans les compagnies traditionnelles. Pour les salariés qui sont dans ces compagnies, la première, c'est Ryanair, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'elle allait approcher les 80 millions de passagers. La deuxième, c'est EasyJet, je crois, avec 60 millions de passagers. Ryanair, les salariés de Ryanair sont l'équivalent du plombier plombier polonais prévu par la directive Bolkestein. Cette directive que le Parlement européen a refusée, parce que fort justement ça avait généré de l'émotion en Europe, eh bien Ryanair l'a mis en place. C'est-à-dire que les salariés qui travaillent pour Ryanair sont régis par le droit irlandais. Et donc Ryanair paye ses charges selon le droit irlandais, en violation des textes européens. Si l'on prend par exemple un pays où Ryanair est très fort, puisque nous on étudie beaucoup l'Espagne, parce que c'est là son point fort, son premier marché, il y a plus de 1500 salariés, c'est-à-dire des navigants techniques et des navigants commerciaux, qui travaillent en Espagne. Il n'y en a aucun qui est déclaré en Espagne.
Jean, je crois que j'ai sous les yeux un papier que vous avez rédigé, Le Conflit pour l'amélioration des conditions de travail du personnel navigant de Ryanair, où vous expliquez par le menu les conditions de travail des salariés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, concrétiser un petit peu ce que vient d'être dit, parce qu'effectivement vous avez des exemples qui sont absolument époustouflants. Hein.
Tout à fait. Donc ce que José a dit, on l'observe en Belgique également. Donc c'est des contrats de droit irlandais, des conditions de travail qui sont excessivement dures, pénibles pour les travailleurs, des travailleurs qui sont aussi endettés parfois en commençant à travailler. C'est-à-dire que Ryanair s'est arrangé pour faire payer par les candidats qu'elle sélectionne pour faire payer la formation qui leur permet de voler. Et c'est une formation qui coûte, d'après les renseignements que j'ai, entre 2250 à 3550 euros. Donc moi j'ai rencontré des gens qui travaillent, personnel de cabine qui travaille pour Ryanair, et qui me disent qu'ils se sont endettés pour pouvoir commencer à travailler chez Ryanair. Il faut savoir aussi que le recrutement de Ryanair est un recrutement qui est souvent qui se fait souvent dans les marchés du travail à la périphérie de l'Europe. Parmi le personnel de cabine, il y a énormément de personnes qui viennent de Pologne, de Lituanie ou d'Europe du Sud. Et donc ce sont des gens qui ont aussi des standards qui sont différents par rapport aux standards qui sont à l'œuvre dans
Mais vous expliquez, je vous coupe, parce que vous expliquez dans votre papier, très concrètement, par exemple, j'ai lu que les personnes qui travaillent chez Ryanair doivent acheter leur uniforme, doivent nettoyer cet uniforme, doivent payer éventuellement l'hôtel lorsque les vols sont rapprochés. Enfin, il y a différents exemples comme ça très concrets qui montrent que on se demande finalement qu'est-ce qui reste à la fin du mois pour un salarié de Ryanair.
Mais très peu. Et si on regarde le personnel de cabine qui part de l'aéroport de Charleroi, ce sont des gens qui s'arrangent pour faire des colocations, etc., pour pouvoir tenir le coup. Ce sont des gens qui ont du mal à vivre décemment de leur travail.
Mathieu, des exemples un peu concrets sur ces aspects?
On peut quand même citer, pour rester en France, qu'il y a eu récemment des procès de ce type à gagner. Donc, à l'automne dernier, c'est Ryanair qui est condamné donc pour enfreinte au droit social français. En gros, sur la base d'Aix-en-Provence, c'est des travailleurs basés à Aix qui étaient de statut irlandais, donc avec les conditions de travail irlandaises, les conditions de travail, rémunération irlandaise. Et c'est Ryanair, encore une fois, est au top là-dedans, mais c'est pas le seul. On peut, en début d'année, CityJet, filiale d'Air France, a été condamné exactement pour la même chose. Donc on voit que voilà, c'est.
C'est-à-dire que Air France a mis en place une filiale avec des droits.
Ils sont pas basés en France.
Non basé en France.
C'est pas une boîte de française. C'était une filiale de CityJet. Le patron d'Air France s'est fait condamner dans cette histoire. Bon voilà, donc il y a ce modèle-là, il s'est exporté. Aujourd'hui, il y a quelques réponses juridiques, mais elles sont assez faibles par rapport à effectivement ce qui est l'ampleur de la casse du droit social pour les travailleurs.
Si je puis me permettre, problème qui est très perceptible au niveau des pilotes. C'est que les pilotes sont obligés quasiment d'être des indépendants et de créer leur propre société en Irlande. Et donc ça veut dire que lorsqu'ils ne volent pas, ils ne sont pas payés. Ce qui est quand même plus que problématique et qui interpelle. Je trouve que c'est il y a un certain nombre de pratiques. Si je prends le personnel de cabine chez Ryanair, il faut savoir que souvent ce personnel n'a pas directement un contrat avec Ryanair, mais ce personnel a un contrat de travail avec une firme sous-traitante.
C'est vrai que dans le modèle low cost, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on a effectivement à la fois une imbrication d'un certain type de modèle qui fait qu'on s'implante sur certains segments du marché, et par ailleurs on utilise très abondamment la sous-traitance. José ?
Oui, ce que dit Jean est tout à fait important, parce que Ryanair innove toujours, comme il vient de le dire maintenant, de nombreux candidats, mais c'est valable pour les pilotes, c'est valable aussi pour les navigants commerciaux. Ryanair leur demande de se déclarer des indépendants. C'est-à-dire que là, effectivement, il n'y a plus un lien entre l'employeur et le salarié avec un contrat de travail. C'est-à-dire, il y a un appel à un indépendant. Tout ça, c'est encore pour que ça coûte moins, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'appel à cet indépendant pour voler, il ne sera pas payé.
Alors,
pardon. Oui. Il y a une différence à ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est que CityJet, c'est pas une filiale qu'a fait Air France. CityJet était une société de droit irlandais qu'Air France a achetée. Voilà, c'était différent. Et nous, au niveau d'Air France, on s'est battu parce que il y avait aussi des problèmes des salariés qui ne souhaitaient pas avoir le statut de travailleur français parce que il y avait trop de charges pour eux à payer. Finalement, ça a été réglé. Mais pour dire que EasyJet aussi a été condamné, ça a été d'ailleurs les premiers. Pour ce qui concerne la base de Marignane, Ryanair a fait appel, mais a été lourdement condamné, plus de 10 millions d'euros. Mais il faut dire que c'est la première fois que Ryanair a été condamné, parce que la France est le seul pays qui a retranscrit en droit français cette fameuse 2006, cette fameuse ordonnance en 2006, et aucun autre pays ne l'a fait.
On reviendra tout à l'heure sur les questions un petit peu justement de lutte qui ont pu être menées par les salariés, et aussi bien au niveau, disons, des luttes de terrain que sur le terrain juridique. Mais
oui, peut-être profiter d'avoir deux syndicats autour de la table. On parlait des conditions de travail. Qu'en est-il sur ce modèle économique du droit syndical? Parce qu'on sait, voilà, que Ryanair a plutôt une politique anti-syndicale. Est-ce qu'on pourrait avoir des éléments d'explication là-dessus? Ou Jean, peut-être?
On demande peut-être à Jean qui a pas mal étudié cette question déjà, peut-être d'ouvrir le débat.
Ben, une des caractéristiques du modèle Ryanair tel qu'il est maintenant, peut-être que ça va évoluer, c'est que on observe une politique antisyndicale qui est tout à fait affirmée et revendiquée.
Donc qui est stupéfiante. Enfin, dans les papiers que j'ai pu lire sous ta plume, c'est quelque chose d'assez étonnant. Enfin, je veux dire, on a un patronat plus que musclé quand même.
Ah, tout à fait. C'est une guerre. O'Leary mène une guerre contre les organisations syndicales traditionnelles.
Qui n'existent pas, qui ne sont pas implantées.
J'en reviens un peu par rapport au personnel de cabine, j'en reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt sur le fait que le recrutement se fait à la périphérie du marché européen. Et donc je pense que le fait syndical n'est pas forcément intégré toujours chez ces gens, et que ces gens débarquent par exemple ici en Belgique et n'ont aucune référence. Ne connaissent pas du tout le monde syndical en Belgique. Ce sont des gens, je pense, qui sont paumés quand ils n'ont pas de point de repère. Donc Ryanair tient, je pense, les gens comme ça aussi, parce que les gens ont peur de perdre leur travail et n'ont pas cette capacité ou ce réflexe de s'adresser aux organisations syndicales.
Et très concrètement,
ils le font, c'est la porte, c'est le licenciement, c'est la rupture de contrat.
Parce que si on regarde, on a ici là deux organisations syndicales qui sont présentes, est-ce qu'on peut poser la question, avez-vous, c'est peut-être pas forcément facile de répondre, mais avez-vous des militants syndicaux dans ces compagnies low cost, par exemple? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous arrivez à les conserver? Est-ce que c'est difficile?
Alors, pour comprendre pourquoi il n'y a pas de militants syndicaux à Ryanair, il faut lire le livre qui a paru en 2012, signé Christian Fletcher, et qui est le récit d'un commandant de bord sur ce qui se passe à Ryanair, et notamment les problèmes syndicaux. Bien entendu, Christian Fletcher, c'est pas son nom,
c'est un pseudo.
Ce pseudo, c'était celui qui avait mené la révolte sur le Bounty, mais de l'intérieur, c'est la première fois où quelqu'un de l'intérieur écrit sur les relations syndicales, ce qui se passe. Je dis aussi que notre confédération avait confié
à la CGT
à un journaliste indépendant, Enrico Porcia, un documentaire sur Ryanair, qu'on peut encore voir. Le titre c'est La face cachée du low cost, modèle Ryanair, sur vérité-lowcost.com. Et c'est 46 minutes où il y a une enquête fouillée sur le modèle Ryanair, avec des interviews d'hôtesses polonaises et autres qui montre la réalité du système Ryanair.
On sait que Solidaire s'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'intérim et les salariés les plus précaires. Et sur ce champ-là, alors, qu'en est-il ?
C'est vrai que c'est quand même très compliqué par le modèle même du modèle low cost et son modèle social très compliqué de s'implanter dans ces compagnies. Donc aujourd'hui, effectivement, quand même, la réalité de la singularisation est très faible et poursuit derrière aussi. On peut peut-être voir un micro-espoir dans ce qui a commencé à exister à Ryanair, où visiblement, les pilotes commencent à essayer de s'organiser au sein d'une organisation syndicale. C'est toujours entre guillemets un peu plus facile pour les pilotes qui ont un rapport de force un peu plus particulier, hein, évidemment, parce que c'est eux qui sont aux manettes. Donc mais c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à voir des étincelles, voilà, de ce type-là à Ryanair, et on peut que espérer que ça se poursuive, les encourager, évidemment, les aider autant qu'on pourra.
Alors là, on anticipe un petit peu sur la troisième.
Par rapport à la répression syndicale. L'année passée, un pilote s'est fait licencier parce qu'il avait pris la parole dans un documentaire anglais qui posait le problème de la sécurité en lien avec le carburant.
D'ailleurs, je te remercie, Jean, de poser cette question, parce que c'est souvent une des questions que qu'on se pose, hein, en tant qu'usager. Est-ce qu'on peut la poser ? Souvent, on entend, hein, le discours un peu classique, c'est de dire, c'est vrai, c'est du low cost. Si c'est si peu cher, est-ce que c'est pas que la sécurité est quelque part mise en cause ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question ?
Oui, moi je le dis clairement. Encore une fois, je vous recommande la lecture de Der Scoop, le modèle économique de Ryanair 2011, et où ils parlent, ce qu'ils disent eux, des manquements à la sécurité. D'abord de la formation PNC, de la formation des pilotes, de la maintenance. Vous savez, ils mettent en cause la maintenance de Ryanair, et ils évoquent également le problème de carburant. Alors, il faut
c'est-à-dire le carburant, c'est-à-dire
voilà, l'import carburant. Vous savez qu'il y a en 2011, il y a trois avions qui reliaient Madrid, et en raison d'orages à Madrid, les trois avions ont dû être détournés sur Valence. Et ils n'avaient pas assez de carburant pour atteindre leur tour d'atterrissage. Donc, ils ont lancé le fameux Mayday, priorité, ils ont atterri avant. C'est là où ça a généré un certain nombre de questions et une enquête qui n'aboutira pas, parce que c'est les autorités irlandaises qui ont le dossier en main. Autant dire que ça n'aboutira pas. Soyons clairs quand même, les avions de Ryanair, les équipages prennent le carbu réglementaire. Aucun avion ne peut pas prendre moins que le carbu réglementaire prévu par un certain nombre
Mais
il y a une telle pression qu'ils ne prennent bien souvent que ça, ne prenant pas en compte les possibles aléas qu'il peut y avoir sur la route ou autre. Ces trois avions qui sont arrivés sur Madrid, s'ils ont été détournés, c'est parce que ces équipages-là n'ont pas pris suffisamment de garanties, parce que le carbu, ça coûte cher. Plus vous êtes lourd, plus vous consommez, et il y a une pression terrible. Christian Fletcher, dans son livre là, dit la pression qu'il y a, et les connards de bord qui dépassent le carbu bien souvent réglementaire sont rappelés par leur chef pilote, il faut l'expliquer, etc. Dans une compagnie traditionnelle, c'est le commandant de bord d'équipage qui décide, il n'est jamais inquiète.
Jean, vous vouliez intervenir ?
Oui, donc il y a un classement, Ryanair fait un classement des pilotes en fonction de leur consommation de kérosène. Mais ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est que le pilote qui a pris la parole, donc qui a eu le courage de dire, s'est fait licencier. Et je pense que c'est une belle illustration de toute la problématique de la répression syndicale qu'il y a chez Ryanair. Et j'ai ici sous les yeux les conclusions du comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail qui s'est penché sur la répression syndicale chez Ryanair. Et ce comité parle de graves allégations, donc dit que si ce qui a été dit est vraiment vrai, c'est excessivement, c'est d'un niveau de gravité extrême par rapport à la question de la liberté syndicale.
Alors, je rebondis sur cette répression syndicale. Peut-être, Mathieu, si on enchaîne justement sur comment un peu combattre ce modèle, si on fait un historique des principales luttes syndicales ou en tout cas des combats qui auraient pu être gagnés ou qui ont été gagnés dans le secteur de l'aéronautique, qu'en est-il ?
Bah, sur les combats spécifiques sur les locaux, il y a eu quand même surtout des combats juridiques, hein, donc on les a commencé un peu à les évoquer, aussi donc de par les salariés, donc ce qu'on évoquait notamment en France, de par les consommateurs, parce qu'il y avait un certain nombre de clauses abusives, donc il y a eu des attaques de ce type-là. Le transport aérien est un milieu dans lequel, de façon très régulière, il y a des luttes syndicales, mais qui sont souvent très éparpillées et assez peu liées. Après, sur le fait de combattre ce modèle, moi, je crois pas qu'on peut imaginer se dire que on va combattre uniquement le modèle low cost contre un modèle plus traditionnel qui resterait tout seul. Aujourd'hui, on est dans une situation de libre concurrence clair, et on peut pas uniquement, et c'est cette libre concurrence qui a fait émerger les low cost. On peut pas se contenter de dire il faut supprimer les low cost pour favoriser les majors. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce qu'une régulation du transport aérien est nécessaire? Et moi, évidemment, on pense que la réponse est oui. Et d'une façon un peu aussi d'avoir des trucs qui soient aussi pour nous passagers, pour nous consommateurs, quelque chose d'un peu rationnel. Aujourd'hui, vous avez des dizaines d'allers-retours Paris-Londres tous les jours, qui se font parce qu'il y a de la concurrence sur des moyens porteurs, donc plutôt des petits avions, avec énormément d'allers-retours aux mêmes horaires. Bon, une façon un peu cohérente de régir le transport aérien, c'est d'avoir des plus gros porteurs et moins nombreux. Ça veut dire une baisse des coûts pour tout le monde, ça veut dire moins de nuisances, ça veut dire moins de pollution, ça veut dire plein de choses. Bon, et quand on parle en plus de Paris-Londres, il y a un train aussi quand même qui relie les deux, donc ça veut dire effectivement quelle réflexion collective on a sur le transport et comment on veut aménager le transport. Aujourd'hui, au vu de l'échelle, cette réflexion elle doit avoir lieu à un niveau européen, mais ce qu'il faut effectivement, c'est quelque chose qui puisse être capable d'assurer un service public du transport aérien, du transport tout court d'ailleurs, mais ça au niveau européen.
Jean, quelques mots là-dessus, sur ces aspects, parce que tu as, là encore, une fois de plus, dans les papiers qu'on a pu lire, tu as beaucoup travaillé, hein, les aspects juridiques qui ont pu être, y compris le rôle de la Commission européenne sur ces sujets. J'ai lu aussi que tu expliquais en particulier que finalement, c'est ce qui vient d'être dit, hein, d'ailleurs, par le représentant de Sud ici, c'est que les États font pas grand-chose dans l'affaire, finalement.
En Belgique, en tout cas, il n'y a rien qui se fait.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi il n'y a rien qui se fait? Parce qu'il y a en gros la question de l'emploi qui est quand même là, non pas liée à la compagnie, mais liée aux aéroports. Donc les aéroports développent de l'emploi et c'est ça qui tient en quelque sorte les politiques. Et en Belgique, il y a aussi la dimension communautaire qui doit être mentionnée. C'est que l'aéroport national est en Flandre et l'aéroport de Charleroi est en Wallonie. Donc cette question des aéroports, elle se double aussi, donc de l'emploi dans les aéroports, elle se double aussi d'une tension communautaire en Belgique. Et donc les grands acteurs politiques préfèrent se taire sur le sujet et créer toutes les conditions pour que les compagnies aériennes puissent se développer, quel que soit leur modèle.
Quelles soient les conditions.
Mais, donc, voilà une démission de la classe politique belge, ça je pense c'est tout à fait clair. Au niveau européen, il y a eu, mais je pense que vos interlocuteurs en studio auront sans doute les dates plus en tête que moi, mais je pense que c'est en 2012, il y a eu un vote du Parlement européen qui a essayé de freiner en quelque sorte le dumping social. Donc moi je pense que le combat qui est important aujourd'hui, c'est peut-être d'abord et avant tout un combat contre le dumping social. Et donc de permettre à l'ensemble des travailleurs du secteur aéronautique de bénéficier de conditions de travail décentes. Et quand on voit le résultat de ce vote, Ryanair devrait appliquer la sécurité sociale qui est à l'œuvre dans les pays dans lesquels les gens ont leur base de rattachement. Donc si je prends la Belgique, les travailleurs de Ryanair qui sont rattachés à l'aéroport de Charleroi devrait bénéficier de la sécurité sociale belge. Mais il se fait que Ryanair a une période de 10 ans pour se mettre en conformité. Et 10 ans, quand on voit les tensions, quand on voit les problèmes que connaissent certaines compagnies aériennes, c'est excessivement long. En Belgique, j'ai signalé que Ryanair avait décidé, sans concertation, de s'installer à l'aéroport national, à Zaventem. Et en faisant ça, il rentre directement en compétition avec Brussels Airlines, qui est la compagnie qui est née des cendres de la Sabena, qui a été mise en faillite en 2001. Donc c'est un secteur aussi où, quand on discute avec les gens, il y a ce traumatisme de la faillite de la Sabena qui est là et qui fait que peut-être on accepte plus de choses que ce qu'on devrait effectivement accepter.
José, vous vouliez réagir ?
Oui, je suis d'accord avec Jacques sur l'atonie, enfin, tout ce qu'on veut dire sur les différents gouvernements, mais pas pour les mêmes causes. C'est pas un problème d'emploi, parce que l'emploi qui est créé par l'activité des low cost est peanuts par rapport à l'emploi créé par les compagnies traditionnelles. C'est
oui,
un problème de
pouvoir. Charleroi, il n'y a rien.
Oui, non, bien sûr, Jean. Charleroi, c'est un cas particulier. C'est un problème de pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier qu'ici, en France, on a remis, le MEDEF a remis, avec des économistes ultralibéraux, avait remis à Luc Chatel, en 2007, un rapport. Comment sauver le pouvoir d'achat? Eh bien, c'était grâce au low cost, grâce à l'économie low cost. On en revient là. Et, par exemple, ici, en France, Sarkozy a été le premier, en octobre 2008, à pousser pour que il y ait les low cost. Francis Cuvillier, le ministre des Transports, de façon inacceptable, reçoit en grande pompe la patronne d'EasyJet dans son ministère parce qu'elle a acheté des Airbus, alors que EasyJet nous taille des croupières avec une distorsion de concurrence effroyable, taille des croupières au groupe Air France. Quant à la commission de Bruxelles, elle est complètement phagocytée. Un petit détail, les auditeurs doivent le savoir. Le commissaire Charles McLevy, lorsqu'il a arrêté d'être commissaire, il a été embauché par Ryanair, uniquement pour faire du lobbying. Il ne faut pas oublier non plus que Michael O'Leary a payé de sa poche, enfin de sa poche, est remplie par les subventions des Européens, 500 000 euros pour la campagne « Oh oui » au référendum irlandais. Ça, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune plainte contre Ryanair qui n'a abouti à Bruxelles.
Bien, bah écoutez, ce qu'on peut peut-être faire, c'est passer une petite pause musicale et on reprendra encore un petit peu les débats pour terminer. On aura un tout petit peu plus de temps finalement que prévu aujourd'hui, donc ça nous permettra de continuer ensemble.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, que l'émission Mode d'emploi ce soir est animée par la Fondation Copernic et est consacrée au modèle low cost. Nous avons ce soir trois invités, deux personnes en studio, Mathieu de Sud Aérien et José de la CGT Aérien, et également un invité qui nous vient directement de Belgique, Jean,
oui.
Qui va devoir nous quitter. J'en profite pour le remercier pour la qualité de ses échanges et des apports qu'il a, la contribution à cette émission.
Et je rajouterais que tous ceux qui sont intéressés par les travaux que tu as pu produire retrouveront sur le site de la Fondation Copernic les liens vers différents articles que tu as écrits. Donc n'hésitez pas à vous brancher sur le site de la Fondation Copernic et vous retrouverez les travaux de Jean Vandevatin.
C'est à peu près ça, oui.
C'est à peu près ça. Merci encore. Mes excuses pour ces difficultés de prononciation. Et donc, merci beaucoup et à bientôt peut-être alors.
Oui. Hein. Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Bien, donc on poursuit avec nos, on termine, si j'ose dire, plutôt que poursuivre, on termine avec nos deux invités sur place. On était peut-être là, on nous reste encore vraiment quelques cinq minutes. On a terminé, hein, juste avant la pause musicale, on expliquait un petit peu où on en était du point de vue des combats syndicaux qui ont pu être menés. On expliquait le rôle des États, enfin en tout cas plutôt l'absence de rôle des États en la matière. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu pour terminer l'émission sur ces questions du point de vue, néanmoins il s'est mené quelques combats au niveau juridique. Est-ce qu'on peut un petit peu rappeler ces combats et dire quelle en a été l'issue? José,
sur les combats juridiques, comme Jean le disait, les salariés d'Orianair sont complètement isolés et c'est très difficile, ils ne peuvent pas s'organiser. Et quelques-uns ont engagé des actions individuelles. À ma connaissance, il y a en Finlande un salarié qui a gagné, mais à Charleroi, l'action de salarié PNC, navigant commerce auto-steward, en premier sens, ils ont été déboutés. En Espagne aussi, il y a eu des jugements contradictoires. Le dernier, un salarié a été débouté. Le jugement d'envergure est important, et celui rendu en octobre par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Nous étions, nous, la CGT, partie civile, avec syndicat de pilotes et de navigants. C'est le premier jugement important à ce niveau-là, et donc les juges ont considéré qu'effectivement, il y avait eu du travail dissimulé, prêteurs illicites, demandeurs et compagnie, a considéré que rien, ces salariés devaient être considérés comme des salariés travaillant sur le territoire français. Cela a découlé de ce fameux texte, cette ordonnance de 2006 qui retranscrit en droit français une directive européenne. Mais là, c'est les syndicats qui ont attaqué. C'est le seul endroit. Ah non. Et là, nous sommes désarmés. Après, les déconvenues qu'a eu Ryanair sont différentes. C'est que, on l'a dit tout à l'heure, la commission de Bruxelles est complètement phagocytée. Ce sera par des actions devant des cours comme celle d'Aix-en-Provence ou autre qu'on arrivera à faire avancer.
Mais on pourrait imaginer, alors une fois plus, ne connaissant pas la question, c'est toujours facile de poser, de vous mettre éventuellement en difficulté, mais est-ce qu'on peut pas penser que les compagnies traditionnelles ont eu, et l'ont-elles fait, intérêt à se positionner devant la Commission européenne, enfin devant les instances européennes, pour justement entraver la concurrence? Ils ont dû le faire, je présume.
Bien sûr.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien.
Vous croyez? Air France a déposé son dossier. Je crois que Air France a déposé plainte avec KLM en 2009.
Et pour l'instant, on attend.
Depuis rien.
Mais pour l'instant, il semblerait que à Marseille Compagnie, la Commission européenne a trouvé que finalement, il n'y avait pas grand-chose à reprocher à Ryanair. Or, je rappelle que les cours régionales des comptes, en 2008, a clairement dénoncé les subventions versées à Ryanair dans les 25 aéroports qu'elle fréquentait à l'époque, sauf Marseille, parce qu'à l'époque, Ryanair débutait à Marseille. Ils ont considéré que ces aides étaient des aides d'État, qu'elles étaient interdites par la Commission. Sauf, comme je vous l'ai dit, la Commission actuellement est complètement sous les ténoirs. En décembre 2005, elle crée une directive qui encadre ces aides d'État. Elle ne les a pas fait appliquer. Et là, elle, en 2014, elle va en sortir d'autres qui vont permettre aux compagnies 10 ans pour se mettre en règle.
Ouais.
Autrement dit, qu'il y en ait encore des beaux jours.
Mathieu ?
Non, en fait, je pense que quand même tout ce que ça montre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le transport aérien en Europe, il est réglementé aujourd'hui par l'UE, c'est vraiment l'UE qui a la main mise là-dessus, et que sur ce terrain-là, comme sur tous les terrains qui concernent un peu le droit du travail et la défense des salariés, l'UE est moins qu'à la traîne, enfin plus qu'à la traîne. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une UE qui a beaucoup joué sur la libre concurrence et toutes ces choses-là.
Libre et non faussé.
Libre et non faussé. Et c'était effectivement très vrai dans l'aérien, mais qui n'a pas du tout pris en compte les travailleurs, que ce soit de l'aérien ou ailleurs, et comment les protéger. Donc ça passe par du dumping social, ça passe par tout ce qu'on a raconté dans cette émission. Et c'est vrai que la problématique, elle est là.
D'accord. Bien, bah écoutez,
bah, l'émission touche à sa fin, donc on va en profiter pour remercier encore une fois nos trois invités. Donc je rappelle, on participait à cette émission, donc Mathieu Santel de Sud, José Rocamora de la CGT, et on a eu par téléphone Jean Vandevatine, qu'on remercie encore une fois. Et je remercie aussi Claude à la technique pour avoir assuré l'émission. Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission sur le site de la Fondation Copernic, donc fondation-copernic.org, que vous pouvez aussi vous réveiller tôt mercredi prochain à 7h30 et l'écouter de nouveau sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Le prochain volet de Mode d'emploi version Copernic, ça sera le 25 avril sur un thème totalement différent, donc démocratie et institutions européennes, quoique. Le dernier morceau qu'on vous propose d'écouter, c'est Ma petite couturière de Damien XVI. Merci à tous.
Bien, ben merci.
Ma petite couturière, elle est pas haute couture. Il faut voir quand elle court des ourlets à mon cœur. Ma petite couturière, elle connaît les mesures de mon cœur est perdu. Là dans la fourmilière, des trous dans les tricots.